la Banque Van Breda, vous méritez plus de temps. Plus de temps libre pour écouter le brief pendant que nous nous chargeons activement de votre liberté financière. Banque Van Breda.
Bonjour, nous sommes le mercredi 6 mars et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le brief de l'Écho.
Donald Trump fait quasiment carton plein lors du Super Tuesday. Ça n'est pas vraiment une surprise, mais Nikki Haley remporte tout de même un État. On fera l'analyse des résultats de la nuit. L'Europe doit se réarmer et ne plus dépendre des États-Unis pour sa stratégie de défense. L'Union européenne sort une feuille de route pour construire ou reconstruire son industrie militaire. C'est la Bérézina pour Mitra. L'entreprise biopharma liégeoise veut vendre tout ce qui est possible pour sauver les meubles. Son patron a été viré. Je suis Laurent Fabry. Bienvenue dans le brief.
Le brief, c'est info, dès 7h.
C'est une première dans l'histoire de l'Union européenne. Hier, la Commission a dévoilé sa stratégie pour construire ou reconstruire plus exactement une industrie européenne de la défense. Après 2 ans d'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'objectif est de faciliter les achats conjoints d'équipements militaires entre les 27 États membres, d'encourager l'innovation et de renouveler les stocks existants, tout cela en y associant l'Ukraine. Le projet est porté par le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton.
L'Europe et les institutions communautaires marquent clairement la fin d'une période caractérisée par ce qu'on a appelé les dividendes de la paix. Effectivement, nous avons un peu baissé la garde, nous avons réduit notre capacité de produire sur le sol européen ce dont nous avions besoin pour nous défendre, tout en, et j'insiste sur ce point, gardant la capacité de développer toutes les technologies dont nous avions besoin pour nous défendre individuellement et collectivement. Cette période des dividendes de la paix, elle est derrière nous.
Avec le retour de la guerre sur le continent, les États européens ont bien augmenté leurs dépenses en la matière, mais en achetant la plupart du temps hors Europe. L'idée est donc ici de produire plus, plus vite et ensemble entre Européens. Côté finance, cette stratégie sera appuyée par un budget de 1,5 milliard d'euros pour la période 2025-2027. Elle est la plus haute tour de Belgique et aux yeux de certains, c'est un véritable symbole national. La tour du Midi s'apprête à être rénovée de fond en comble. Un investissement estimé à 141 millions d'euros est nécessaire pour offrir une seconde vie à ce mastodonte de 38 étages, construit dans les années 60 et qui culmine à 150 mètres de hauteur. La Sécurité sociale est propriétaire de la tour et elle y emploie aujourd'hui encore quelques 1800 fonctionnaires du service fédéral des pensions. Pour la ministre des pensions Karine Lallieu, cette rénovation devient urgente. En 60 ans, la tour du Midi n'a jamais été complètement rénovée. Elle évoque des besoins en termes de sécurité, de durabilité énergétique, d'environnement de travail et d'accessibilité. Bref, de quoi animer la fin de la législature fédérale avec un bon gros dossier immobilier. Une discussion en Cairn est annoncée pour le 15 mars. C'est le branle-bas de combat chez Mitra. À 3 jours de la publication de ses résultats annuels, la biotech wallonne spécialisée dans la santé féminine a créé la surprise en annonçant le départ immédiat de son CEO, David Horn-Solomon. Il est remplacé par le duo Christophe Maréchal et Xavier Paoli, respectivement directeur financier et directeur des opérations chez Mitra. Olivier Gosset, bonjour.
Bonjour Laurent.
Vous avez suivi ce dossier haut en rebondissement, il faut bien le dire. L'américano-canadien David Horn-Solomon est arrivé à la tête de Mitra il y a moins d'un an. Dans quel contexte a-t-il pris ce rôle et finalement, qu'est-ce qu'il s'est passé depuis ?
Alors, le CIO devait avant tout conclure un accord de commercialisation aux États-Unis avec le Donesta, un traitement des effets néfastes de la ménopause. Il devait également faire rentrer du cash en tentant de vendre l'usine CDMO de Flémalle de Mitra, qui reste largement sous-utilisée et qui coûte extrêmement cher à l'entreprise. Moins d'un an plus tard, on ne peut que constater que le CIO sortant a échoué sur ces deux points, ce qui explique en partie son départ.
Alors aujourd'hui, les caisses de Mitra sont presque vides. Si elle veut survivre et faire face à ses créanciers, la société doit trouver un acheteur pour une partie ou pour même la totalité de ses actifs. Quelles sont les perspectives pour Mitra dans un tel contexte ?
Alors, tous les scénarios sont sur la table. Le pire, c'est celui d'une faillite pure et simple de la société, qui laisserait plus de 230 travailleurs et chercheurs sur le carreau. Mais on évoque également une procédure en réorganisation judiciaire. La plus probable est la vente de certains actifs et de certains brevets. On parle aussi d'une reprise complète de l'entreprise ou l'arrivée, mais assez hypothétique il est vrai, d'un nouvel investisseur. En résumé, je dirais que Mitra reste dans une situation mais extrêmement délicate et bien malin celui qui pourrait dire ce qui va se passer dans les prochaines semaines.
Merci Olivier. Alors en bourse, le titre affichait une dégringolade de près de 28% hier à la clôture. Mitra ne pèse désormais plus qu'une vingtaine de millions d'euros contre plus d'un milliard au moment de sa gloire. L'or brille de mille feux sur les marchés financiers. Ce mardi, le cours a franchi un nouveau record historique. Un peu avant 15 heures, il a dépassé le seuil des 2150 $ l'once, ça fait un peu plus de 30 grammes, avant de légèrement retomber. Le précédent record datait de début décembre dernier. L'or bénéficie de son statut de valeur refuge, surtout en cette période de tension géopolitique. Et par ailleurs, avec la volatilité des autres actifs, une bulle sur les marchés d'actions est peut-être à prévoir et donc un repli potentiel à venir. Mais l'or est aussi et surtout recherché par les investisseurs qui parient sur une baisse prochaine des taux d'intérêt directeurs de la Réserve fédérale américaine, ce qui devrait rendre l'investissement en or plus attractif. Et puis je vous en parlais hier, on le sentait venir, le Bitcoin a lui aussi battu un record historique. La plus célèbre des crypto-monnaies a bel et bien passé la barre des 69 000 $ hier, peu après l'ouverture à Wall Street. Reste à voir jusque quand la fête durera pour les cryptos. Ce mardi, la Chine a présenté ses grandes orientations économiques pour 2024. Je vous en ai touché un mot hier matin. Elle vise une croissance de 5% cette année. C'est presque autant que l'an dernier, mais cela semble bien éloigné des objectifs à deux chiffres que la Chine affichait fièrement il n'y a pas si longtemps. Mais même cet objectif amoindri sera compliqué à atteindre pour la Chine. Surtout, les autorités chinoises n'ont pas annoncé de mesures radicale pour relancer l'économie en berne. Alors, peut-elle surmonter les défis qui se présentent à elle ? J'ai posé la question à Bernard Capen, il est économiste en chef de la banque CBC.
Alors, c'est bien là où il y a effectivement pas mal d'interrogations, parce qu'ils ne sont pas du tout à la hauteur des défis, dans le sens où elle a été plus question, finalement, quand on voit le discours du Premier ministre chinois, de sécurité et presque, je dirais, d'idéologie, que d'économie. On n'est pas du tout dans une réaction comme on l'a eu en 2008 ou en 2015, où il y a eu de véritables mesures de soutien pour l'économie. Ici, c'est totalement absent. Donc, ça semble insuffisant au stade actuel.
Alors, la Chine peut-elle encore miser sur ses exportations, alors que de plus en plus d'États limitent les biens venus de Chine ?
Alors, il est évident que le modèle chinois devait évoluer, il devait passer d'une économie qui était totalement dépendante de ses exportations vers une économie qui pouvait essentiellement croître avec la consommation intérieure, le marché intérieur. Et que donc aujourd'hui, vu les restrictions de plus en plus, d'abord le ralentissement économique d'une part, et puis les restrictions de plus en plus importantes qu'imposent les États-Unis, que commencent à imposer les Européens, vont obliger, ou obligent en tout cas la Chine, à changer plus rapidement ce modèle. Mais le problème aujourd'hui, c'est que clairement, la consommation intérieure ne prend absolument pas le relais, parce qu'aucune des mesures qui ont été prises ces dernières années n'ont été des mesures de soutien pour la demande intérieure.
Les marchés se sont montrés aussi assez dubitatifs après ces annonces. Les valeurs chinoises côté Hong Kong ont piqué du nez hier. Wall Street termine en assez nette baisse aussi, mais là à cause de prises de bénéfices sur les technos notamment. Le Dow Jones recule de plus de 1% et le Nasdaq de 1,25%. Et Tokyo suit la même tendance ce matin. Alors de l'autre côté du monde, par rapport à la Chine, aux États-Unis, c'était le Super Tuesday cette nuit. C'est la grande date du cycle des primaires américaines. 15 États et un territoire votaient tous en même temps, dont les deux plus peuplés d'ailleurs, la Californie et le Texas. Mais cette année, vous le savez, là, le suspense n'était pas au rendez-vous. Joe Biden et surtout Donald Trump écrasent la concurrence dans leurs camps respectifs. Alors quelles sont les grandes tendances de ce Super Tuesday ? On voit ça tout de suite avec Katharina Lettor, l'une des correspondantes de l'Écho aux États-Unis. Bonjour Katharina.
Bonjour à vous. Et Trump a déjà remporté 11 États sur 15. On n'a pas encore tous les résultats, mais on peut le dire sans prendre trop de risques. Trump et Biden sont les grands vainqueurs de ce Super Tuesday. Alors on vient de l'apprendre, la victoire de Nikki Haley dans le Vermont a été avalisée. Alors il n'y a pas de gros enjeux puisque le Vermont est traditionnellement démocrate, mais c'est une victoire quand même. Alors on était très curieux de voir comment l'ancienne ambassadrice de l'ONU s'en sortirait. Et en cela, l'édition 2024 est assez intéressante parce qu'elle nous a montré que l'autre voie républicaine ne séduit finalement pas jusque dans les urnes. En Virginie, par exemple, la moitié des électeurs indépendants qui sont traditionnellement favorables à un profil plus modéré ont voté Trump. La Virginie et la Caroline du Nord sont probablement les deux échecs les plus cuisants pour Nikki Haley.
Alors va-t-elle continuer la course justement pour le cas où Trump serait bloqué par la justice ?
Eh bien, personne n'a la réponse. Ce qu'on sait, c'est qu'elle a encore de l'argent puisqu'elle a annoncé avoir levé 12 millions de dollars en février. On sait aussi qu'elle voudrait rester une option pour l'électeur américain. C'est ce que ses équipes ont laissé entendre il y a à peine quelques heures. Mais aujourd'hui, on n'a pas beaucoup plus de détails.
Et en novembre prochain, Katharina, que vont faire les électeurs de LA ? Vont-ils voter Trump ou Biden ?
Alors, une journaliste de la NBC a posé cette question à la table de presse de Trump. Il a répondu très simplement que Haley n'était pas un sujet, que ce que font ses électeurs n'a tout simplement aucune importance. Et pourtant, la question, elle est sur tous les plateaux, elle aussi. Haley avait promis en début de campagne qu'elle soutiendrait le candidat républicain, peu importe son nom, mais dimanche, elle a déclaré qu'elle ne se sentait plus liée à cette promesse. C'est un coup dur pour les républicains puisque parmi ses supporters, on a ces fameux Never Trumpers, les tout sauf Trump. Dans cette manne-là, on sent une forte hésitation. Les électeurs seraient même prêts à voter Biden pour éviter le pire.
Merci Katharina. Depuis le rachat de Voo par Orange en juin dernier, les deux opérateurs disent avoir gardé leur importance respective et qu'il n'est pas question de renoncer à la marque Voo. Ça, c'est le discours officiel. Mais en coulisses, d'après nos informations, la manière de diriger la nouvelle structure n'est clairement pas aussi équitable. Les explications de notre spécialiste maison, Arnaud Martin.
On a constaté depuis le rachat qu'il y a eu un remaniement assez important au sein du comité de direction de Voo. Donc il y a plusieurs directeurs qui sont partis. Deux d'entre eux n'ont pas été remplacés. D'autres ont été remplacés par des profils qui ont été choisis par Orange. Et enfin, ceux qui sont restés en place sont désormais sous la responsabilité de leur homologue qui est chez Orange. Ce qui fait qu'au final, le comité de direction de Voo, il reste uniquement le directeur de BTV qui a gardé la même position et la même responsabilité. On peut se dire que ça semble assez logique que quand un opérateur en rachète un autre, il choisit la stratégie et donc les directeurs. Mais il y a quand même quelques choix qui peuvent paraître un peu surprenants, puisque Orange, en rachetant Voo, a notamment acquis un réseau fixe. Donc c'est une technologie qu'ils n'avaient pas en interne chez eux. Mais ils ont quand même préféré mettre à la place de ce département quelqu'un de chez Orange et donc remplacer l'ancien directeur technologique de chez Voo.
Et puis restez branchés sur nos différentes plateformes pour suivre les derniers résultats des primaires américaines sur l'écho.be ou sur notre application pendant toute la matinée. Et puis une première analyse aussi des enseignements de ce Super Tuesday dès ce midi. On se retrouve demain ? Allez, tant mieux. Bonne journée.
À la Banque Van Breda, vous méritez plus d'évolution. Plus d'évolution de votre capital. Plus d'évolution de votre capital pendant votre carrière pour pouvoir suivre l'évolution de vos petits-enfants après votre carrière. Vous méritez également plus de Banque Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Banque Van Breda, réservée aux entrepreneurs et aux professions libérales.